Amen. Alors, bonjour à tous. Je suis revenu des vacances. Ça fait 4 semaines, c'est un peu long, mais en tout cas, j'ai bien profité. J'étais très très heureux, en tout cas, de retrouver la famille, les familles. J'ai fait à peu près 5000 kilomètres en moins de 3 semaines, oui. J'ai bien profité en tout cas de ce temps pour bien me reposer, pour rencontrer des gens, mais aussi pour prier les uns pour les autres. En tout cas, c'était un moment très propice pour moi et aussi pour la famille. Merci en tout cas pour votre prière. Merci aussi pour Élisée, pour la présidence, qui nous a rappelé combien il était important de fier à cette promesse qui reste éternelle et que nous devons, oui, tenir ferme dans notre foi pour voir aussi l'accomplissement de toutes ces promesses. Oui, ces promesses qui ont été données seront un jour déjà accomplies, une partie, mais aussi seront accomplies un jour. Et qu'est-ce que nous faisons, hein? Il y a toutes ces promesses-là qui ont été données, et est-ce que nous avons vraiment assez de foi pour tenir ferme jusqu'au bout, hein? Qu'est-ce que vivre selon la foi? Qu'est-ce que la foi, d'ailleurs? Dans 2 Corinthiens 5, 7, il est dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Dans cette phrase, ce qui est intéressant, c'est « On ne vit pas selon ce que nous voyons, mais nous vivons par rapport à ce que nous ne voyons pas encore. » Parce que nous regardons une réalité invisible. Dans 2 Corinthiens 4, 18, il est dit encore, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles, éternelles. Ça veut dire que la foi, par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure, nous marchons par la foi, non par la vue, la foi veut dire il faut regarder, c'est vivre en regardant ce qui est invisible. Mais c'est vrai, c'est difficile parce que nous vivons sur cette terre et nous sommes influencés par le monde, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Et d'ailleurs, nous devons bien réfléchir, planifier pour construire notre vie. C'est important, mais Dieu nous dit qu'il faut vivre par la foi, c'est-à-dire en regardant les réalités invisibles. C'est comme ça que notre foi peut grandir. Si nous regardons des choses, que des choses visibles, la foi ne peut pas grandir. On a beau prier, on a beau lire la parole de Dieu, on peut même venir à l'église pendant les vacances. Bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont partis en vacances. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas ce matin. Mais les choses les plus importantes, c'est quand même, est-ce que nous sommes capables de voir les choses invisibles? C'est ainsi que nous pouvons porter notre fruit. Paul nous dit en tout cas que c'est très important d'avoir ce regard spirituel. Ce regard spirituel. Quand je pense un petit peu les premiers chrétiens, c'est vrai, ils ont vu de leurs propres yeux Jésus qui est mort, ressuscité, monté au ciel. Et Dieu a encore laissé des promesses, nous avons entendu encore des promesses ce matin, et ils ont attendu en ayant cette conviction de cette réalité invisible. C'est parce qu'ils ont expérimenté quelque chose de très fort avec le Seigneur qu'ils ont pu tenir, et même ils ont pu connaître les persécutions. Et malgré cela, ils ont tenu ferme. Dans Hébreux 11, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comment regarder les choses qu'on ne voit pas? D'abord, je pense qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Important de lire la parole méditer jour et nuit. Et aussi de vivre cette présence de Dieu en continu pour qu'on ne soit pas des aveugles spirituels. Dans l'Apocalypse, quand nous regardons un petit peu les chrétiens, ils se disaient « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » C'est des paroles des chrétiens. « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et là, Dieu dit « Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Parfois, dans notre liturgie ou peut-être dans notre vie spirituelle, quotidienne, traditionnelle, on peut rechercher, on peut avoir une apparence de piété et puis ne pas regarder véritablement des choses invisibles que Dieu réserve pour nous. Est-ce que nous nous rendons compte qu'il y a une vraie réalité invisible? Cet été, j'ai appris qu'un pasteur que je connaissais, que j'appréciais beaucoup, avait un cancer. Il partageait sa maladie avec sérénité et il disait que, en tout cas, voilà, c'est pas pour longtemps qu'il va rester avec nous. Peut-être 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais sachant cela, il disait qu'il vivait autrement. Chaque jour est tellement précieux pour lui. Et qu'il essaie de vivre en faisant tout son possible pour plaire, pour plaire à Dieu. Et puis d'ailleurs, sa devise était vraiment de vivre dans la joie, dans la joie. Et il disait, voilà, la parole de 1 Thessaloniciens 5, « Soyez toujours joyeux, je le prends pour moi aussi. Malgré ma maladie, je le prends pour moi. Je suis toujours joyeux parce que le Seigneur est avec moi, malgré que je vais bientôt quitter ma famille. » Et il prie sans cesse, bien sûr, en rendant grâce en toute chose. Et il sait que c'est la volonté de Dieu, à son égard. Et c'est vrai. Est-ce que nous nous rendons compte que nous pouvons aussi aller rejoindre le Seigneur à tout instant, hein? Peut-être que certains d'entre nous pensent que ce sera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même. Parce qu'on va, on vit maintenant à une période où nous pouvons vivre jusqu'à 100 ans. Et puis on repousse notre relation intime avec le Seigneur pour plus tard, ou plutôt pour demain. Ma relation que j'entretenais peut-être il y a quelques années, je vivrai ça demain. Hein? J'ai encore du temps. Et on repousse. Parce que pour moi, la réalité visible est beaucoup plus importante. On pense vivre éternellement même. Or, comme ce pasteur qui va bientôt nous quitter, on ne sait pas quand est-ce que nous allons mourir. D'ailleurs, en faisant mes 5000 kilomètres, j'ai failli avoir 2 accidents. Un accident où j'ai failli percuter une jeune fille en vélo qui a surgi comme ça, sans regarder. Hein? C'était complètement sa faute. Et heureusement, j'étais un professionnel de conduite pour pouvoir esquiver de justesse, avec freinage, très fort. Et puis j'ai vu encore, j'ai vu aussi un enfant, j'ai participé à un mariage. Et j'ai vu un enfant traverser la rue. Et j'ai eu un bruit, vraiment, parce que la voiture s'est arrêtée. Mais j'ai vu, j'ai mesuré 4 mètres de freinage. Et ça a passé comme ça, l'enfant. Imaginez pendant le mariage, cet enfant qui a peut-être 5-6 ans a failli partir. On ne sait pas quand est-ce que nous allons. Heureusement, le Seigneur l'a protégé. On ne sait pas quand est-ce que nous allons rejoindre le Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous préparons ce jour J que nous allons rencontrer le Seigneur? Ou bien, parce que le Seigneur dit, soyez déjà prêts. Il ne dit pas, préparez-vous. Soyez déjà prêts. Et on pense toujours que ce sera demain, que je serai prêt. Non, soyez déjà prêts. C'est ça la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Oui, le juste vit selon les choses invisibles. Il vit en regardant les réalités invisibles, les choses éternelles. Il n'est pas ballotté par des choses visibles. D'ailleurs, on pense que ouais, voilà, ce sont des gens, peut-être ceux qui ne bronchent pas, ce sont des gens qui ont une forte foi inébranlable. Dans Matthieu 7, il est dit que, je vous le dis en vérité, Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de senevé, vous savez ce que c'est un grain de senevé? C'est comme un grain comment ça s'appelle? De semoule. Voilà, un grain de semoule. Hein, vous avez vu des semoules, tout petits, pareil. Si vous aviez de la foi comme un grain de senevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Juste une petite foi, comme un grain de senevé, nous permet en tout cas de faire transporter une grande montagne. Si c'est la bonté de Dieu, bien sûr. Avoir cette foi est important. Avoir cette foi ancrée en Dieu est vraiment très important. Dieu n'espère pas qu'on soit des Superman ou des super-héros. En ce moment, il y a tellement de super-héros dans les cinémas. Ce n'est pas ça qu'il attend de nous. Il attend qu'on ait cette foi comme un grain de senevé, une petite foi qui permet en tout cas de réaliser des choses grandioses. C'est avec cette foi que Pierre a pu marcher sur l'eau. Hein, il a d'abord demandé au Seigneur s'il pouvait s'approcher de lui. Quand il a eu la permission, il a commencé à marcher. Mais, voilà, on pourrait réaliser des choses merveilleuses, rien n'est impossible avec le Seigneur. Mais malheureusement, c'est vrai, il y a toujours cette réalité visible qui est là. Il y a la vie qui est là. Peut-être des difficultés, des épreuves qui sont présentes quotidiennement. Et d'ailleurs, il y a aussi le diable qui travaille jour et nuit pour nous empêcher de voir cette réalité invisible. Et on pense, avec notre intelligence, que c'est raisonnable de penser de cette manière-là. Et on vit souvent donc de manière raisonnable et on ne surpasse pas mes propres pensées. Et c'est ça qui nous gêne, qui nous bloque à expérimenter cette puissance de Dieu. On donne parfois aussi des limites à Dieu, alors que Dieu nous dit rien n'est impossible. On se donne des limites et on donne des limites à Dieu. On dit que non, ça c'est pas possible, Dieu ne pourra pas faire. Alors que tout est possible si c'est la volonté de Dieu. Noé, homme de foi, il est dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti les choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà donc un grand homme de foi, de la foi. Il a pu construire cette arche en espérant, en voyant ce qui était une réalité invisible, comme quoi Dieu justement allait juger le monde, mais qu'il allait aussi accorder une nouvelle génération. Oui, pendant 100 ans de construction, Noé a pu sûrement connaître des difficultés, des moments de doute, mais il a quand même continué à regarder cette réalité invisible. J'aime bien cette parole dans Genèse 6, 8, où il est dit, Alors que Dieu dit, voilà, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, etc., etc. Mais, au verset 8, il est dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il a pu voir cette grâce. Il a pu expérimenter cette grâce avec le Seigneur. Malgré les difficultés, malgré les épreuves qui étaient devant lui. J'aimerais donner encore un autre exemple. L'église de Laodicée, qui était donc une des dernières églises que Jésus donne comme parole dans chapitre 3. Il dit que, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà donc une des paroles assez sévères contre cette église de Laodicée, qui semblait être bien, mais pour Dieu, cette église n'était ni froid, ni bouillant. Qu'est-ce que vous en dites? C'est quoi l'église bouillante? On pense tout de suite à quoi? Une église charismatique, super bouillante, non? C'est ça? Et puis, quand on pense à l'église froide, c'est quoi? Vous pensez à quoi? Vous avez une certaine idée, hein? Je ne vais pas vous le dire. Est-ce que notre église est une église tiède ou bouillante? Là, il est dit, comme solution contre à cette église de Laodicée qui avait ce problème de tiédeur, Dieu donne un conseil. Il a dit, mets un collyre, pour oindre tes yeux, afin que tu vois. C'est intéressant. Il faut mettre un collyre dans les yeux pour voir les réalités invisibles, pour voir que Dieu est présent, pour voir que Dieu est avec nous. Voilà. Quel est le rôle de l'Église? Le rôle de l'Église, bien sûr, c'est d'être enfant de Dieu. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité, et qu'on soit vraiment des vrais adorateurs. Dieu cherche aussi une Église vraie, une Église qui est vivante, efficace, une Église qui va de l'avant. Que nous puissions vraiment être, notre église Vendeuvre soit vraiment une église vivante, qui voit cette réalité invisible. J'aimerais vous lire le verset, en fait, qui concerne le conseil que le Seigneur donne à l'église de Laodicée. Je te conseille, le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche spirituel, et des vêtements blancs, qui symbolisent aussi la vie éternelle, dans la présence de Dieu, afin que tu sois vêtu, etc. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Que nous puissions avoir ce zèle, que nous puissions nous repentir aussi pour avancer, pour aller de l'avant. J'en passe l'exemple de Moïse, je vais passer à Élisée dans 2 Rois 6. Je racontais souvent à cette histoire où le roi de Syrie planifier plein de choses pour attaquer l'Israël. Il voit que tous ses plans sont déjoués. Il se dit, mais est-ce qu'il y a un espion dans notre équipe? Et il dit, non, il n'y a pas d'espion. C'est tout simplement parce qu'il y a un prophète qui s'appelle Élisée qui devine tout. Alors, le roi Syrie décide d'envoyer son armée pour le prendre. Et donc, il y envoyait des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Voilà donc une parole où on voit, donc il y a une réalité visible et il y a une réalité invisible. Un exemple typique. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui voient que des choses visibles ? Vous savez, c'est vraiment frustrant de discuter parfois avec des gens qui voient que la réalité qu'ils voient. Enfin, qu'ils voient. Hein ? On n'arrive pas à discuter. Je dis des choses et ils comprennent autrement. Élisée devait être comme ça avec son serviteur. Lui, il voit la réalité invisible, il voit plein de chars de feu, des chars, des chevaux de feu qui les entourent pour les protéger. Mais le serviteur, son serviteur, ne voyait rien. Ne voyait rien. C'est frustrant. Heureusement, voilà, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Parfois, quand vous avez des problèmes avec des gens qui ne voient pas cette réalité invisible, ce qu'il faut faire n'est pas forcément de se mettre en colère. Bien sûr, on a le droit de se mettre en colère, mais il faut se retenir et faire comme Élisée qui a prié pour que son serviteur puisse voir cette réalité que Élisée voyait. C'est important. C'est important d'intercéder pour ceux qui ne voient pas. En tout cas, ce que nous voyons ici, c'est que dans nos épreuves, parce que, voilà, Élisée était en danger de mort, dans nos épreuves, Dieu envoie des chevaux de char, des chevaux de feu et des chars de feu, et on peut voir avec nos yeux spirituels. Lorsque nous voyons cette réalité invisible, c'est à ce moment-là que nous pouvons obtenir la paix de Dieu, la paix que le Seigneur nous accorde. C'est ainsi que nous pourrons voir ces anges qui nous protègent. Je disais, en voyant cet enfant qui était sauvé, hein, de justesse, de l'accident qu'il a failli avoir, parce que ça s'est passé vraiment 2 mètres de moi. J'étais vraiment le témoin de ce qui s'est passé. Heureusement, Dieu l'a protégé. Je disais au pasteur qui faisait la cérémonie, heureusement que le Seigneur l'a protégé, cet enfant. Qu'est-ce que ça aurait été? Déjà pour les mariés, hein, au jour de leur mariage, il y a un enfant qui décède, et puis l'Église aussi, l'Église qui devait être sûrement après être touchée par ça. Heureusement, le Seigneur la protège. En tout cas, oui, malgré les épreuves, Dieu envoie ses chars de ses secours, ses anges qui nous protègent. Et nous devons justement continuer, en tout cas, à regarder cette réalité invisible. Parfois, bien sûr, nous subissons des difficultés. Nous avons vu tout à l'heure ce pasteur qui a eu son concert. Ou encore, nous pouvons vivre des échecs. On peut vivre aussi des dangers de mort. Mais ce qui est important, c'est vraiment ouvrir nos yeux avec cette, comme une graine de sève, avec cette foi qui nous permet d'aller de l'avant. « le Seigneur a déjà tout accompli sur la croix. Et heureusement d'ailleurs, il a accompli parfaitement pour notre salut, pour que nous soyons forts, pour que nous puissions vivre avec lui sereinement, en paix aussi. Mais est-ce que nous n'utilisons pas cette réalité de la mort de Jésus comme un moyen de salut, comme un instrument? Ne comprenons pas le cœur de Dieu? Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre le cœur de Dieu, son amour. Et c'est ainsi que nous pouvons voir cette réalité invisible qui est devant nous. C'est ainsi que nous pouvons aussi vivre dans la vraie sérénité de la foi. Comprenons bien que nous ne sommes que des étrangers sur cette terre, des résidents temporaires, et que, avec la foi que Dieu nous accorde, il faut vivre sereinement en allant de l'avant et aussi surtout en regardant cette réalité invisible. Dans Proverbe 8, 17, il est dit, j'aimerais terminer par cette phrase, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aimerais encore vous relire, « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Que nous puissions vraiment le rechercher ardemment, le désirer ardemment, l'aimer davantage chaque jour et ne pas repousser cette intimité pour le demain. C'est aujourd'hui. Dieu a dit, soyez déjà prêts, c'est pas préparez-vous. Parce que si nous sommes déjà prêts, nous serons comme ces vierges sages qui ont pu accueillir l'époux. Mais si nous sommes en train de préparer, nous serons que ces vierges folles qui n'ont pas pu accueillir l'époux. Parce que ces 10 époux, ces vierges, attendaient aussi tous l'époux. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent l'époux. Mais il faut être des gens qui sont déjà préparés. Que le Seigneur nous bénisse, que nous donne vraiment sa grâce, parce que ce n'est pas avec notre propre force que nous pouvons être déjà prêts. C'est par la force de l'Esprit de Dieu, par les moyens que Dieu nous donne, que nous pouvons être déjà prêts. Que le Seigneur nous donne, en tout cas, cette capacité de voir les choses invisibles qui sont éternelles. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu bon, compatissant, lent en colère. Tu es patient. Et que, oui, tu aimerais que nous puissions vraiment aussi voir, comme Élisée a pu voir cette réalité invisible, ta main qui surpasse toute intelligence, ta grâce qui inonde sur nous. Seigneur, qu'on ne regarde pas que dans le monde, mais plutôt sur les choses invisibles, sur cette réalité éternel. Oui, Seigneur, notre vie est comme un souffle, comme un vapeur d'eau qui est là et qui part. Mais ta parole demeure éternellement et tu réserves aussi une vie éternelle devant nous, que nous puissions vraiment espérer à cette réalité invisible, que nous puissions voir aussi ta main puissante qui règne. Que nous puissions vraiment être dans ta présence pour être dans la consolation, dans le confort, dans la paix. Seigneur, sois avec nous. Que pendant ces vacances, en tout cas pour ceux qui sont en vacances aussi, ou encore pour ceux qui travaillent, que nous ne bronchions pas, mais que nous continuions en tout cas à te servir, à t'honorer davantage, pour être plus proche de toi, pour t'aimer davantage. C'est au bon nom de Jésus que nous te prions. Amen.